Bonsoir Mélanie Chalandon. Alors toujours le nez dans les étoiles, sur les docks continue son exploration de l'aventure spatiale française. Ils sont un petit groupe d'hommes et de femmes à pouvoir témoigner d'une expérience exceptionnelle. Les spationautes Jean-Loup Chrétien, Claudie et Jean-Pierre Aigneret, Léopold Desjardes, Jean-François Clairvoy et Michel Tognini répondent aux interrogations de Michel Pomarède sur ce qui a pu constituer leur perception tout là-haut. Les références terrestres oubliées surgissent de nouveaux cieux, des couleurs stupéfiantes, alliées au vide sidéral et merveille.
Et puis Irène, il y a aussi la sensation du vol en apesanteur, la sortie de la station pour se retrouver dans l'espace.
Oui Mélanie, nous allons pouvoir entendre toutes ces incroyables aventures vécues par des hommes et femmes que nous souhaitons saluer dans cette semaine de France Culture consacrée aux héros.
Pour moi, les héros sont ceux qui sont les tout premiers à faire un truc où vraiment on part dans l'inconnu total. Quoi. Yuri Gagarin, c'est un vrai héros. Il nous a ouvert la porte à tous en réussissant du premier coup son vol. Et avec des mots d'ailleurs qui sont très importants avec du recul. Je me sens très bien et c'est magnifique ce que je vois. S'il avait dit c'est horrible, je me sens mal, j'ai mal partout et c'est tout noir, bah, ça aurait cassé l'aura. Mais il se trouve que la réalité est qu'on se sent très bien rapidement dans l'espace, on a l'impression qu'on est fait pour ça. Et c'est tellement beau qu'on en a des larmes aux yeux, et c'est comme ça quand on regarde la Terre défiler sous nos yeux.
Les nouvelles frontières de la conquête spatiale. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre.
On est à 400 km d'altitude, dans le vide absolu, à peine protégé par quelques 3 mm d'aluminium de tôle, mais en même temps soumis au bombardement du rayonnement cosmique, du rayonnement solaire, des percussions de débris. Même si, quand tout fonctionne bien, des fois on oublie qu'on est dans l'espace, on est quand même dans un milieu extrêmement hostile et relativement dangereux. Le corps en apesanteur, vous ne ressentez plus votre corps, donc tout est concentré dans l'esprit. Et puis confronté à une échelle incroyable. Vous voyez, on ne voit pas à 400 km d'altitude la Terre en entier, mais vous voyez là, sa rotondité, des océans, des continents entiers. Et puis vous voyez quand même ce globe suspendu dans un fond, un écran tout noir, un peu plus constellé d'étoiles quand on est à l'ombre du Soleil, hein, derrière la Terre. On se déplace à 22 000 km à l'heure. Ça veut dire que le temps où vous réalisiez l'endroit que vous survolez, vous êtes déjà à un autre endroit, donc en fait vous êtes nulle part. Vous êtes non seulement dans le vide, mais nulle part, et dans un monde qui est tout noir, et donc qui est symboliquement le néant. Ça ne ressemble à rien de ce qu'est la vie normale, c'est extrêmement impressionnant, c'est très beau. Ça vous dépasse complètement, ça vous dépasse d'autant plus que ne ressentant pas votre corps au fond, votre existence se ramène à la perception que vous avez de ce qui vous entoure. Et puis, l'échelle est telle que votre vie ne pèse, votre existence, votre être est extrêmement vulnérable, en tout cas négligeable par rapport à l'univers que vous pouvez percevoir.
Non, Dieu, on ne voit pas Dieu, mais par contre, ce qui rend émouvant la vue de la Terre, c'est le fait que le champ de vue porte très loin, à environ 2500 km à la ronde, que le contenu de ce qu'il y a dans ce champ de vue change très vite, et qu'en plus ce contenu est beau. En termes de contraste, de couleur, le vivant biologique, le vert, le turquoise, l'éclosion de phytoplancton dans les atolls de Polynésie, mais aussi le vivant géologique et tectonique. On voit les volcans, les ouragans, la vie climatique de notre planète. Donc ça rend humble. On se dit, nous humains, le vivant sur Terre est vraiment tout petit par rapport à cet être géologique en soi, climatique qu'est la planète Terre. C'est pour ça que j'aime pas trop quand on dit la planète est fragile. La planète, elle nous survivra. C'est le vivant qui est fragile et ça se voit d'autant plus fort lorsqu'on se dit, tiens, je vais regarder l'atmosphère à l'horizon, en la regardant sur son épaisseur, là où notre regard tangente la Terre, donc à environ 2000 et quelques kilomètres. Et on s'aperçoit qu'à l'échelle de la planète Terre, l'atmosphère qui est la source du vivant, qui nous fait vivre, c'est une couche de gaz extrêmement mince. C'est du papier de cigarette. Hein. Quand vous prenez un globe terrestre de 30 cm de diamètre, eh bien, l'épaisseur de l'atmosphère, et c'est l'épaisseur d'une feuille de papier.
À partir du moment où vous quittez l'atmosphère, quand vous êtes en dehors de l'atmosphère, le ciel que vous voyez bleu en général, de jour, il devient noir. C'est-à-dire que jour et nuit, tout ce qui vous entoure est noir. Donc c'est vraiment le noir sidéral, c'est le vide sidéral.
C'est vrai que j'ai été perturbée au premier regard par le hublot, parce que le cosmos était en dessous de la Terre, le ciel était en dessous de la Terre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a obligée physiquement à faire le tour du hublot pour remettre les choses dans un sens qui était mon sens habituel de terrien, ou de voir l'Afrique au-dessus de l'Europe. J'ai été obligée, pendant les premières 24 heures, de faire physiquement un tour de hublot pour recaler ces références. Et puis ensuite, vous faites le choix. Vous restez accroché à des références terrestres et vous n'êtes pas bien, ou vous décidez de rentrer dans ces nouvelles références, ce nouvel environnement, et d'utiliser à fond la troisième dimension et cette capacité à avoir une liberté supplémentaire. Ce que j'ai choisi de faire très vite, et ce qui permet de se sentir très à l'aise après 24 heures d'une première adaptation.
On vole, on se dit, on a ce privilège d'être un oiseau, c'est pas tout à fait un oiseau, puisque c'est un objet en apesanteur, et la différence par rapport au vol artificiel qu'on peut faire quand on est dans un avion, quand on est passager dans un avion, ou quand on est dans une station spatiale, la différence fondamentale, c'est que là-haut, dans l'espace, si on vous enlève progressivement tout ce qui est autour de vous et qui vous permet de vivre, sauf bien sûr la bulle d'air que vous avez autour de la tête, autour du corps, le reste n'a pas d'importance. On peut l'enlever, vous continuez à voler. Dans un avion, si on vous enlève le siège, vous tombez sur le plancher. Si on vous enlève le plancher, ben vous redescendez sur Terre à grande vitesse. Donc on ne vole pas. C'est l'avion qui vole pour nous et qui nous emmène. Là-haut, le véhicule spatial ne nous emmène pas. On sait en faire abstraction très facilement. Et quand on est dehors en scaphandre, très vite on fait abstraction du scaphandre.
On voit les planètes et les étoiles. Les étoiles ne scintillent pas, puisqu'il n'y a pas le frein de l'atmosphère. On voit toutes les étoiles. Et en plus, on voit les couleurs des étoiles. Chaque étoile a une vie, une date, une température de combustion qui correspond à une couleur différente. Donc vous avez un sapin de Noël d'étoiles autour de vous. Donc ce sont des images extraordinaires qu'on ne peut pas ramener aujourd'hui. On arrive à ramener des images extrêmement belles de la Terre, de la Lune ou bien de nos planètes, mais on n'arrive pas encore à amener des belles images d'étoiles telles que nous les voyons dans la station spatiale.
À l'époque où j'ai volé, c'était 2008, donc on commençait à assembler les éléments qui n'étaient ni américains ni russes sur la station spatiale internationale, puisque ma mission consistait à amener le module européen Columbus. Et le module européen Columbus était le premier module non américain ou non russe qui était assemblé à l'ISS. Et il a précédé tous les éléments japonais, par exemple.
Et vous avez été le premier à rentrer dans ce laboratoire Columbus.
J'ai été le premier à rentrer dans le module Columbus. J'ai allumé les lumières. C'était un grand moment. Et il y avait aussi un autre astronaute de l'Agence spatiale européenne, Hans Schlegel, qui est un astronaute allemand, mais qui, lui, était membre d'équipage de la navette spatiale. Puisque moi, j'ai volé avec la navette, je suis parti avec la navette et revenu avec une autre navette. Mais j'étais considéré comme un membre de la station.
Léopold Laertz, vous avez allumé la lumière dans le module Columbus au sein de l'ISS, donc la station spatiale internationale. Si on faisait un petit peu le tour du propriétaire de cette station, 110 mètres de long, 70 mètres de large, c'est-à-dire un terrain de football à peu près, dans lequel il y a en permanence 6 personnes aujourd'hui. Je lisais le témoignage de l'astronaute italienne qui disait qu'il n'y a ni haut ni bas, mais qu'il y a des indications.
Le fait qu'il n'y ait ni haut ni bas, c'est lié bien sûr à l'apesanteur. Lorsque vous êtes un apesanteur, si vous tournez sur vous-même et que vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas dire où est le haut et le bas. Maintenant, les modules sont construits avec des couleurs ou un agencement, si vous voulez, où visuellement, vous pouvez voir un haut et un bas, comme dans les modules que l'on trouve au sol pour l'entraînement. On peut visuellement identifier un haut et un bas, même si on ne le ressent pas physiquement.
Si mes informations sont bonnes, l'heure de travail en espace à 370 km de la Terre, c'est l'heure GMT, c'est-à-dire que quand il est minuit à Paris, vous fermez les rideaux, vous faites dodo comme le terrien moyen.
Voilà, station est centrée sur l'heure universelle, donc qui est l'heure de Greenwich, donc l'heure de Londres si on veut. Et donc toutes les opérations se font par rapport à cette heure-là. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on est en Europe, bon, moi je participe par exemple aux opérations aujourd'hui dans l'équipe de contrôle à Munich régulièrement, on a des horaires de travail au sol qui sont centrés sur les horaires de la station pratiquement. Par contre à Houston ou au Japon, puisqu'il y a aussi un centre japonais par exemple, eux travaillent la nuit.
Jean-Luc Chrétien, votre dernier vol, c'était 97, à bord d'Atlantis. Est-ce que vous vous rappelez encore, physiquement, la sensation de voler en apesanteur ?
Ah oui, oui, ça c'est quelque chose qui ne s'en va pas. Dès qu'on a passé plus d'une dizaine de jours ou une semaine dans l'espace, c'est quelque chose qui reste. Au total, j'y ai passé 45 jours à peu près. Donc je pense que le corps, grâce au système nerveux, existe, il ne pèse plus rien. C'est quand on lève un bras, on n'a pas la même sensation. Mais il n'y a pas beaucoup de différence. Je crois que la différence, elle est un peu sentimentale.
Racontez-moi cette sortie extravéhiculaire de 6 heures et 10 minutes dans le vide en 1988. Il y a moins de 600 terriens qui sont devenus astronautes, mais il y en a encore moins qui ont fait des sorties extra-véhiculaires. Qu'est-ce que ça fait d'être dans le vide, dans le néant, relié à ce que vous appelez, vous, une ligne de vie ?
C'est un événement aussi particulier que le vol lui-même. C'est comme une mission dans la mission. C'est comme de voler, faire un deuxième vol, ou un vol parallèle avec un autre appareil. Et effectivement, le scaphandre est juste là pour nous donner cette bulle d'air et la radio et l'électricité pour communiquer avec le reste. Mais on est dans un petit cocon à l'extérieur du véhicule et on oublie très vite ce cocon grâce à l'absence de pesanteur. Et ça, c'est assez fabuleux. Bon, on a beaucoup de travail pendant les sorties extravéhiculaires. La nôtre, c'était compliqué. On est resté donc deux fois plus longtemps que prévu. Mais on fait, en 6 heures, on fait donc 4 fois le tour de la Terre. Donc on voit 4 levées de soleil, 4 couchers de soleil, 4 nuits, 4 jours. La première nuit, on se gèle. Quand on passe de l'autre côté de la Terre, à partir de nuit, il fait un froid de gueux. Tendance à enlever les mains des gants, de recroqueviller les mains en attendant patiemment que le jour arrive pour se réchauffer un petit peu. La deuxième nuit, on se fait déjà un peu moins voir. Et puis alors, la troisième, on se débrouille pour avoir très chaud à la fin de la journée, de façon à passer une nuit à peu près correcte. C'est effectivement un événement extraordinaire, la sortie dans l'espace, de regarder le bout de ses pieds, de voir aussi bien tourner vers la voûte céleste où on voit donc des milliards d'étoiles. Et puis ça c'est quand on a la tête en bas, si on peut dire. Et puis le coup d'après, c'est voir le bout de ses pieds défiler sur les ombres de nuages et choses comme ça en dessous. C'est un grand moment. Un grand moment.
Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good.
C'est vrai que par rapport à toutes les activités spatiales, les spécialités qu'on peut faire dans l'exploration spatiale, une des plus pointues, des plus exigeantes, qui demande beaucoup d'entraînement et une force physique et un bon contrôle de soi, ce sont les sorties extravéhiculaires.
Jean-Pierre Aigneret.
Sorties extravéhiculaires, c'est avec les efforts physiques extrêmement intenses. On dit qu'une sortie extravéhiculaire de 6 heures, moi je fais 6h20, c'est l'équivalent de matchs de football intensifs, vous voyez, comme effort physique. Tout simplement parce que le scaphandre étant gonflé à une demi-atmosphère et comme on est dans le vide total, il a une rigidité tellement importante que chaque geste, y compris celle qui consiste à fermer sa main pour s'agripper à une main courante, est un geste physique qui réclame de la force et qui dépense de l'énergie. Et donc, il faut savoir gérer cette énergie parce que sur une durée de 6 heures, vous pouvez aller de l'autre côté de la station. Et une fois que vous êtes de l'autre côté, dans notre système, nous n'avions pas des robots qui nous amenaient de l'autre côté de la station. Il fallait, comme un alpiniste, ramper le long. Avec effectivement cette ligne de vie on avait deux lignes de vie qui nous rattachaient à la station et qu'on devait décrocher, accrocher au fur et à mesure qu'on se déplaçait. Mais les pieds ne servent à rien, puisqu'on est dans l'apesanteur. Donc la seule manière de ramper, c'est d'utiliser les mains. Et on n'a que deux mains. Et pour accrocher ces lignes de vie, il faut donc lâcher une main, décrocher le mousqueton et l'accrocher un petit peu plus loin. Et ça m'est arrivé au moins une fois, en faisant ce geste, le scaphandre fait à peu près, près de 200 kilos en tout avec votre corps. Et même si on a un apesanteur, le fait de faire un geste un petit peu brusque induit un moment de rotation de ce scaphandre. Et 200 kilos avec un moment de rotation, il arrive parfois que ça peut vous arracher la main. Et une fois, j'ai essayé de mettre mon mousqueton un peu plus loin que la normale, parce que j'avais déjà des ampoules de sang dans les gants à force de fermer la main pour décrocher ces mousquetons. Et en faisant ça, je me suis décroché. Et là, j'ai vu, évidemment, j'avais un mousqueton dans la main. C'était une des lignes de vie. L'autre main était décrochée et j'ai vu ma deuxième ligne de vie se tendre jusqu'à devenir un peu élastique et me permettre de revenir vers la station. Et je peux vous dire que là, le risque, si elle n'avait pas été attachée, ce qui est arrivé parce que pendant mon cheminement précédent, deux, trois fois, le mousqueton s'était mal accroché et je l'ai retrouvé en train de voler dans l'air au lieu d'être attaché à la main courante. Et là, cette fois-ci, Dieu merci, il était attaché. Autrement, j'aurais été un satellite éternel. Enfin, en tout cas, je serais rentré sur la Terre au bout de quelques semaines, mais mort asphyxié, évidemment. Donc, cette fragilité de votre vie, cette vulnérabilité et ce théâtre grandiose vous amène forcément, en tout cas, fait sortir de vous des sentiments, des réactions, des émotions, des désirs, des frustrations que vous n'avez pas forcément sur Terre. Et c'est vrai que je me souviens avoir écrit qu'au fond, ma conclusion, c'est... D'abord, j'avais fait un petit texte sur les yeux dans le cosmos. Hein, ce noir du cosmos qui est un noir, qui n'est pas le noir de Soulages, parce que le noir de Soulages est surfacique, il brille, il est matériel, il marque une limite. Alors que le noir du cosmos, c'est quelque chose qui est infini, qui est sans limite. Et quand vous plongez votre regard dans le cosmos, vous avez comme un vertige parce qu'il ne porte sur rien et vous vous sentez aspiré par cet océan de couleur très sombre, très noire, par ce néant en fait symbolisé. Et la sensation que vous avez, moi en tant que scientifique, je me posais toujours, quand on parle de l'infini, je disais, oh, l'infini, mais l'infini, qu'est-ce que l'infini ? Comment on va vers l'infini et s'il n'y a pas de limite, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est une question qu'on peut se poser. Et une des théories qu'on peut expliquer sur l'infini, en tout cas une représentation mathématique, on fait allusion à la courbe de Mébus, c'est-à-dire que plus vous allez loin, plus vous revenez vers le plus profond de vous-même. Et c'est exactement la sensation que j'avais quand j'avais ce vertige des yeux dans le noir du cosmos. J'avais l'impression de plonger très profond au fond de moi-même. Et c'est vrai que j'ai consacré une partie de mon temps à essayer d'analyser ce que je ressentais, ce qui n'était pas toujours facile. Et à la fin de mon vol, en fait, je ne photographiais plus que des nuages. Je venais à l'essence même de ce qui provoquait une émotion en moi. Et donc, quelque part, c'était une radiographie de mon évolution, ma propre évolution.
La citation éculée de Yuri Gagarin, « Je n'ai pas vu Dieu » là-haut. Et vous, Claudie Aigneret, vous avez vu qui là-haut ?
Se dire, quand on regarde ce cosmos immense, mystérieux, profond, avec des milliards d'étoiles, que pourquoi pas d'autres formes de vie, sans doute pas dans notre système solaire, même si peut-être il y a des traces, et c'est ce qu'on cherche sur la planète Mars ou sur d'autres lieux. Mais on sait... infinis de galaxies, d'autres systèmes solaires. On a aujourd'hui plus de 2000 planètes, d'exoplanètes sur d'autres systèmes solaires qui sont répertoriés. De se dire que ce miracle de forme de vie, c'est peut-être effectivement produit quelque part ailleurs, dans cet univers ou ces univers. Et ensuite, ça c'est des observations, des choses que vous ressentez. La présence d'un dieu, d'un créateur, ça dépend de chacun, mais bien évidemment, on ne le voit pas par le hublot.
Si je me rappelle bien aussi, chaque spationaute a droit à 1,5 kg d'effets personnels. Vous, je crois que vous avez amené des disques de l'Akalas. La musique en apesanteur, c'est une émotion particulière ?
J'essayais de grappiller du temps sur mes horaires de sommeil, sur un vol de courte durée. Il faut prendre du temps là où il n'existe pas. Et j'ai emmené avec moi ce morceau magnifique, plein d'émotions, plein de poésie, de Norma Castadiva, qui est une incantation à la lune, en plus. Et avec un rythme de défilement qui était tout à fait concordant avec le défilement de la station autour de la Terre. Donc se prendre une orbite, 90 minutes, à regarder défiler la Terre par le hublot, avec un casque où vous êtes emporté par la musique et puis ensuite cette voix exceptionnelle, c'est quelque chose qui vous permet encore plus de plonger dans la contemplation. Et pour moi, la musique, dans ce cas-là, a donné des moments de bonheur tout à fait extraterrestres, oui.
Michel Tonini, en 1999, vous êtes donc dans l'espace. En 2001, vous êtes la voix qui parle à ceux qui sont dans l'espace. Vous êtes Capcom, celui qui, sur Terre, parle à ceux qui sont dans l'espace.
Alors, le Capcom, c'est le diminutif pour la capsule de communication. Donc, dans un centre de contrôle, tous les vols sont contrôlés par un centre de contrôle. À Houston, il y avait un centre de contrôle pour la navette spatiale, puis un centre de contrôle qu'on appelle la salle bleue pour la station spatiale internationale. Et dans ce salle de contrôle, imaginez-vous, vous avez beaucoup d'ordinateurs, de consoles. Chaque console correspond à un système, système oxygène, système régulation de température, système support vie, système sortie extravéhiculaire, système robotique, système médical. Donc tous les systèmes moteurs, etc. sont représentés par des consoles. Et dans chaque console, vous avez 3 ou 4 personnes spécialistes qui surveillent tous les paramètres qui sont prêts à intervenir. Vous avez un directeur de vol. Le directeur de vol prend les informations de chaque système pour savoir si tout est correct. Quand un système est cassé, il communique, lui, avec les responsables du système. Et il me donne les informations, le directeur de vol me donne les informations. Et je parle aux astronautes en leur disant, voilà, tel problème est arrivé, il faut faire telle opération. Ou en règle générale, quand il n'y a pas de problème, on leur dit, ben, dites-moi où vous en êtes sur telle expérience, sur telle procédure, et ils donnent le résultat de la procédure.
Léopold Ayertz, vous êtes ce qu'on appelle Eurocom.
Alors Eurocom, c'est euro comme européen et com comme communicateur.
Donnez-nous un exemple concret. Je suis dans la station, j'ai une panne, comment je m'adresse à vous et qu'est-ce que vous répondez? D'abord, je vous parle en quelle langue?
Alors en général, on va parler en anglais. Le russe est aussi une langue officielle, mais ce sont surtout les Russes qui utilisent la langue russe, le centre de Moscou. Pour les Européens, les Japonais et les Américains, ou les Canadiens, puisqu'on a aussi un partenaire canadien, c'est l'anglais qui est la langue utilisée.
C'est déjà arrivé des urgences à bord depuis que la station...
Oui, oui. Enfin, c'est arrivé, il y a eu des fausses alarmes, si on peut dire. Il y a eu, dans la station internationale, il n'y a pas eu vraiment de problème majeur sur le plan de ce qu'on appelle les emergencies, donc les situations vraiment critiques. En gros, il y a 3 types de situations d'urgence. C'est d'abord le feu, bien sûr. Tout ce qui est aussi dégagement toxique, vous savez que dans la station, il y a quand même des produits qui peuvent être toxiques. Puis il y a aussi les dépressurisations. Alors, dépressurisation, c'est le module, il y a un trou dans le corps du module et vous perdez la pression, bien sûr, et ça peut être dû. La principale menace pour ça, ce sont les débris spatiaux. Des objets qui ont été vraiment créés par l'homme, c'est-à-dire des étages de fusées qui ont explosé ou des satellites qui ont explosé, ou il y a même eu de collisions de satellites et qui créent enfin, un risque d'avoir une collision avec un débris qui pourrait dépressuriser la station.
C'est-à-dire que Mir, la station dans laquelle vous avez volé, qui a été détruite en 2001, est-ce qu'il y a des bouts de mire qui se baladent aujourd'hui dans l'atmosphère qui peuvent percuter la station spatiale internationale ?
Alors mire, non. Parce que mire, lorsque a été ce qu'on appelle désorbitée, donc on l'a fait revenir sur Terre, si vous voulez, elle était intègre. Enfin, évidemment, elle s'est détruite dans l'atmosphère, mais en rentrant dans l'atmosphère. Mais il n'y a pas de débris dans l'espace, à ma connaissance en tout cas, lié à la station Mir.
Léopold Deyertz, vous avez parlé de risque, emergency. Quand vous étiez pilote de chasse sur un Jaguar, un jour vous avez dû vous éjecter pour vous sauver la vie. Est-ce que vous avez déjà eu peur dans l'espace ? Est-ce que vous avez déjà eu ressenti la possibilité de la mort ?
Non, c'est très très différent. Je pense que les gens qui sont dans un avion de chasse vivent des situations qui sont sans doute plus risquées.
51L mission ready to go.
Alors évidemment, lorsqu'on parle de vol spatial, il y a deux phases qui sont, je dirais, critiques hein, sur le plan des risques. C'est le lancement et le retour. Mais le lancement, ça prend à peu près 8 minutes et demie. Et ensuite, il y a le retour sur Terre qui, lui, prend peut-être la rentrée atmosphérique, c'est de l'ordre d'une vingtaine de minutes. Donc ces phases-là, bien sûr, sont assez critiques et on sait que c'est celles qui ont créé des accidents spatiaux. Dans l'histoire des vols habités, il y a eu quelques accidents et ils ont tous eu lieu au moment du départ ou au moment du retour.
Challenger, go with throttle up.
Challenger, go with throttle up. The shuttle mission will launch. My God.
28 janvier 1986, explosion de la navette Challenger, 73 secondes après le décollage.
This is not standard. This is not something that is planned, of course. I hope they were able to survive. I hope the astronauts.
We have no downlink.
We have absolutely no sign at all. This is unheralded in the history of the space program.
Léopold Deyertz, vous avez voyagé avec les Américains. Est-ce que la mémoire des navettes perdues, c'est quelque chose qui hante encore les Américains ? Ces héros morts pour la conquête de l'espace ?
Il y a un site à côté du centre spatial de Houston où il y a, si vous voulez, un mémorial de ces équipages qui étaient, on pourrait dire, des pionniers, hein, puisque le premier accident de la navette, c'était au cours des premières années d'exploitation du shuttle. Et le deuxième accident de la navette est beaucoup plus récent, puisque c'était en 2003, à l'époque où j'étais encore à Houston d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, bien sûr, c'est que bon, la navette, d'abord, restait un engin ou un appareil assez avancé, puisqu'il a été créé dans les années 70, avec le premier vol dans les années 80. Donc on peut dire que c'était une machine assez dangereuse, hein, de par son concept, si vous voulez, c'est-à-dire un avion qui part et qui revient de l'espace, un peu comme une navette, puisque c'est de là qu'il tire son nom. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que ces accidents contribue à l'amélioration de la sécurité. Tous les principes ou les leçons qui ont été apprises de ces accidents servent dans tous les domaines encore aujourd'hui pour la sécurité des vols habités.
Jean-François Clairvoy, 94 Atlantis, 97 Atlantis, 99 Discovery, ça c'est vos vols avec les Américains. Et je lisais dans une revue scientifique que pour les Russes, le voyage dans l'espace est un marathon avec des personnes interchangeables et que les Américains, c'est un sprint avec des spécialistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ?
Alors, c'est une définition qui était valable à l'ère navette. Parce que pendant une trentaine d'années, la NASA n'a pas effectué de vol long, quelques-uns ponctuels en louant une place à bord de la station russe Mir. Et la navette spatiale n'a pas de panneau solaire. Donc elle doit amener toute son énergie avec elle au décollage et elle peut au maximum rester une quinzaine de jours dans l'espace. Donc pour maximiser et rendre efficace une mission de navette, il faut bosser comme en sprint. On bosse 14 à 16 heures par jour, on dort peu, même si on a 8 heures théoriques programmées, on dort moins que 8 heures. Et quand on revient, on a l'impression de se soulager d'une pression continue qu'on n'a pas vu passer parce qu'on est concentré en continu. Alors que les Russes ont développé, dès la perte de la course à la Lune, les vols de longue durée. Ils ont développé une connaissance extraordinaire et ils savent que pour vivre et travailler dans la durée dans l'espace, il faut ménager la bête, quoi. Il faut ménager l'astronaute, lui laisser les week-ends de libre, ne pas le faire travailler intensément tout le temps. Alors, il y a des périodes intenses, un rendez-vous spatial, une sortie dans l'espace, une tâche de robotique de plusieurs heures ou sur plusieurs jours pour faire de l'assemblage. Mais entre-temps, travailler à un rythme terrestre. Et c'est ce que les Américains ont appris avec les Russes. Donc aujourd'hui, les Américains et les Russes sont tous les deux dans des missions de longue durée avec les Européens, les Japonais, les Canadiens et travaillent au même rythme. Donc la différence principale que j'ai observée à l'époque où j'étais astronaute actif à la NASA détaché de l'Agence spatiale européenne, c'est une différence qui est due à la différence des programmes. Il y a 1000 interrupteurs dans le cockpit de la navette. On contrôle les systèmes par interrupteur dédié à distance. Alors que chez les Russes, c'est une station dans laquelle on vit et manuellement on accède à la moindre pompe, à la moindre valve et on peut la remplacer en bricolant.
Okay. Jean-Luc Chrétien, est-ce que quand on va dans l'espace et qu'on est déjà allé dans l'espace, on bizute le bleu qui arrive ?
On avait un médecin lors de mon deuxième vol sur Mir. On avait un médecin, le docteur Polyakov. Et on n'arrêtait pas de l'enquiquiner. Il disait, on n'est pas malade, on n'a pas besoin de toi. Quand il nous demandait pourquoi on lui faisait nettoyer les filtres, pourquoi c'est lui qui allait guetter derrière les hublots, voire je ne sais quoi d'ailleurs, on se débarrassait de lui. Et chaque fois, Lexus disait, attends, t'es là pour nous soigner, on n'est pas malade, donc va faire autre chose. Lui, c'était le bisou. Il le prenait bien. Il avait un défaut, il ronflait la nuit. Alors un jour, on l'a détaché, parce qu'on était tous attachés un peu partout dans Mir. Et nos grands sacs de couchage étaient attachés aux quatre coins. Et on l'a délicatement détaché. On l'a amené dans le module du fond, un module où étaient entreposés les conteneurs en aluminium qui servaient de poubelle. Et on l'a lâché là, pour le reste de la nuit. Et au petit matin, on a entendu un vacarme. Il venait de se réveiller et il a cogné dans les poubelles, dans les conteneurs vides en aluminium, t'en fais un bruit de casserole, de cloche et de casserole, un tintamarre. C'était notre Valérie qui se réveillait dans les... Elle n'était pas contente du tout. Hein. Pas... Le bisu, là, s'est rebellé. Donc, vivre dans une bonne ambiance, une ambiance de bonne humeur, de plaisanterie, etc., ça permet de prendre de l'avance. De prendre de la hauteur. Et si jamais quelque chose se passe, là, il y en a un qui va dire « Oh, arrêtez !» Et puis, on va devenir plus sérieux, mais on ne va pas devenir hyper sérieux.
Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui, Jean-Luc Chrétien, des années après votre retour sur Terre, un terrien comme les autres ?
Ah, complètement, oui. Ouais. Complètement. Quand je fais une fausse note à un récital d'orgue, je peux vous dire que là, je tremble plus qu'en haut d'une fusée.
Est-ce que vous avez la nostalgie de ce temps-là, par exemple de Mir qui a disparu en 2001, et est-ce que vous pourriez me décrire, je ne sais pas, une sensation, quelque chose de Mir que vous avez gardé en vous ?
L'odeur est dans la mémoire, a plus de place, je crois, que tout le reste. C'est des odeurs qui reviennent, et ça sent le Soyouz.
Alors il y a une petite odeur au départ qui est une odeur agréable. Une fois qu'on est dans l'espace, au bout de 2 jours, à l'époque il fallait 2 jours pour rejoindre la station, on fait sécher les scaphandres, donc il y a une odeur qui est un mélange de métal et de caoutchouc, qui n'est pas très agréable. Et cette odeur reste l'odeur du Soyouz pendant tout le vol. Et quand j'étais dans la station Mir à l'époque, j'allais dans Mir qui sentait extrêmement bon, enfin qui avait une odeur normale, comme ici. Et quand je rentrais dans le Soyouz, je retrouvais cette odeur de métal et de caoutchouc qui était moins agréable quand même.
Je débarque souvent chez un de mes amis qui vit sur la Seine, Jacques Rougerie, son bâtiscaf. Sa grande péniche, où il a une chambre d'amis qui sent le Soyouz. Et d'ailleurs, il l'a baptisé la chambre Soyouz. Donc c'est une odeur un peu de bateau, un petit peu de produits chimiques, et ça reste. Non, Mir, par endroits, ça sentait un peu la cave d'un vieux bateau.
L'odeur qui me vient à l'esprit, c'est l'odeur du retour dans les steppes du Kazakhstan, l'ouverture de l'écoutille. Et là, effectivement, on a atterri dans un champ où il y avait encore des traces du blé et des moissons. Et c'était l'odeur de la terre, parce que dans la station, il n'y a pas d'odeur. L'air est renouvelé, bien évidemment. Vous avez fabrication d'oxygène, collecte du gaz carbonique, des ventilateurs qui fonctionnent sans arrêt. Il y a d'ailleurs du bruit permanent dans la station et des odeurs aseptisées. vite parce qu'il y a tout ce renouvellement de l'atmosphère dans laquelle vous vivez à bord de la station spatiale. Mais on est arrivé dans la station spatiale en apportant là aussi ce qui est classique, des fruits frais et des herbes. Et ça, c'est un peu la première chose que les cosmonautes font quand les coutilles s'ouvrent, qui sont là depuis plusieurs mois, c'est de porter auprès de leurs narines ces objets, ces fruits, ou pour retrouver ces odeurs de la Terre, parce que malgré tout, on est des terriens.
J'ai jamais eu le mal de l'espace, enfin mes deux vols, mais par contre quand je suis revenu sur Terre après l'atterrissage, j'ai été obligé de me secouer pour m'extraire du Soyouz qui était complètement basculé sur le côté, j'avais les genoux complètement bloqués sur le tableau de bord, et pour m'extraire, il n'y a que moi qui pouvais sortir, on ne pouvait pas venir me chercher, j'ai été obligé de m'agiter et là j'ai eu le mal de Terre. Pendant une demi-heure, j'ignorais complètement qu'on pouvait avoir le mal de Terre. Mais le mal de la Terre... Oui, bien sûr, on l'a. Il y a des moments de spleen, hein, il y a des moments de frustration, en particulier quand sur un vol de 6 mois, il y a des périodes qui sont denses, où vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup d'opérations, et des moments où c'est plus calme, où il y a moins de programmes scientifiques à réaliser. Et c'était le cas en particulier au début de mon vol, puisqu'il avait été avancé de 6 mois, en fait, et tout le matériel scientifique n'avait pas été mis à bord pendant le premier mois et demi de ma présence à bord de Mir. Là, c'était, il y a des moments où je dirais pas que je m'ennuyais, mais il me manquait quelque chose. Il manquait cette dimension justement rationnelle pour justifier cette présence, parce que c'était tellement immense, je me sentais tellement privilégié que j'avais une certaine gêne à ne pas faire quelque chose d'utile et réaliser un programme scientifique. Je ne pouvais pas, il n'y avait pas le matériel. Alors il arrive effectivement que vous avez envie de voir votre fille. En plus, dans notre cas, aujourd'hui dans la station internationale, ils ont une liaison avec le sol à tout moment, quand ils veulent. Ils peuvent même prendre un téléphone et téléphoner à leur famille quand ils veulent, à tout moment, où qu'ils soient autour de la Terre. Dans notre cas, sur Mir, on avait très peu de liaisons. J'avais une liaison avec ma femme une fois par semaine et ça durait parfois 2-3 minutes, pas plus. Bon, quand je suis parti, ma fille avait un an, elle marchait pas, c'est sûr que ça, elle me manquait parfois, j'aurais aimé la voir grandir. Mais l'un dans l'autre, ce que vous vivez, vous savez que vous n'allez pas le revivre beaucoup de fois après, c'est exceptionnel, vous êtes extrêmement privilégié, et surtout dès qu'on met le nez au hublot, on est face à un spectacle hallucinant, extraordinaire, extrêmement inspirant. Et on se rend compte qu'on fait quelque chose d'absolument extraordinaire.
Après 15 ans de virée dans l'espace, Mir vit ses derniers jours. Le vaisseau cargo Progress, qui doit détruire la station spatiale russe, a décollé ce matin du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Une fois arrimé à la station, une véritable danse macabre va commencer dans l'espace. Il va pousser Mir, sa carcasse de 130 tonnes, lui faire perdre petit à petit de l'altitude jusqu'à ce que la station se désintègre.
Claudine Nuret, est-ce que vous avez la nostalgie de l'espace ? Donc de ces moments partagés avec des compagnons de voyage. Mais est-ce que vous avez aussi la nostalgie de Baïkonour, ce site de lancement qui va être bientôt remplacé, enfin dans les années futures, par un site de lancement en Russie ? Est-ce que vous avez la nostalgie de Mir, qui n'existe plus ? Est-ce que vous avez la nostalgie de quelque chose, voilà, qui est passé ?
J'emploie pas souvent le mot de nostalgie. J'ai des mémoires, j'ai des souvenirs, j'ai des choses encore tellement présentes à l'esprit. Ensuite, je suis quelqu'un qui se dit il faut aller plus loin dans l'aventure, continuer cette exploration. Donc je suis plutôt en support aux étapes à venir. Et en support, par exemple, à ces 6 jeunes magnifiques astronautes européens et à Thomas Pesquet en particulier, pour ce vol de l'année prochaine, pour se dire qu'il faut continuer à faire vivre l'étape actuelle du vol en orbite basse, et puis préparer des missions plus lointaines, que ce soit la Lune, que ce soit Mars. Donc j'ai plutôt de l'appétit pour continuer à repousser les frontières de ce qu'on sait faire aujourd'hui.
61, Yuri Gagarin. 69, l'homme américain sur la Lune. Mmh. Les Russes et les Américains à l'époque étaient dans une confrontation sur le sol terrien, géopolitique. La Lune, l'espace, c'était une autre façon de se confronter. Est-ce que, depuis la chute du mur de Berlin, tout le monde est, entre guillemets, trop ami et qu'il n'y a pas assez de compétition? Et donc, est-ce que l'arrivée des Chinois va pas rebooster la conquête spatiale? Parce que tout le monde, les As, c'est 26 pays, tout le monde est d'accord pour mettre de l'argent, mais il manque un esprit de compétition pour que des nouvelles frontières soient franchies, des nouveaux objectifs soient atteints.
Alors, il faut voir le contexte politique, bien sûr. Il a complètement changé aujourd'hui. Ce que vous appelez donc l'esprit de compétition, aujourd'hui, c'est l'esprit de coopération. Ça a totalement changé. Il y a eu, il y a 8 ans, les 14 agences spatiales, donc qui sont les plus grandes agences spatiales dans le monde, ont élaboré une stratégie qui s'appelle une stratégie d'exploration globale. Et chacun arrive avec ses propres objectifs et peut participer à des missions qui sont faites par d'autres pays.
Mais est-ce qu'il y a un grand objectif qui rallie tout le monde ?
Alors voilà, donc il y a ce qu'on appelle une feuille de route. Hein. La feuille de route, c'est la Lune, Mars et un jour peut-être au-delà.
La nouvelle frontière, c'est dans la connaissance trouver une trace de vie possible ailleurs. C'est arriver à trouver des éléments de réponse à la question « sommes-nous seuls dans l'univers ?» Et on y arrive. C'est l'objet de toutes les missions d'exploration. Les sondes interplanétaires qu'on envoie vers Pluton, Saturne, Jupiter, vers Mars, etc., ont comme mission numéro un de trouver la vie, ou la possibilité de vie, ou l'existence de vie dans le passé. C'est exactement ce que disait le capitaine Kirk dans la mission du vaisseau Enterprise. Notre mission, explorer des mondes étranges, rechercher la vie et avec audace aller là où on n'est jamais allé. C'est exactement ce qu'on fait à l'Agence Spatiale Européenne. Et quand on a posé une sonde sur Huygens à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre il y a 10 ans, quand on a posé un atterrisseur, une sonde sur le noyau d'une comète il y a un an, on a découvert des mondes totalement étranges. Quand on regarde l'espace par le hublot, on voit la Terre, depuis l'espace, on voit la Terre, le Soleil, parfois la Lune. C'est sur un fond de noir d'encre du cosmos qui nous fait ressentir spontanément cet isolement de nous, humanité. Et on se dit, là, il n'y a vraiment rien d'autre. Hein. Mais quand on regarde du côté opposé, qu'on éteint toutes les lumières dans le cockpit, que la pupille de l'œil s'écarte et que les bâtonnets s'activent pour voir dans l'obscurité, c'est couvert d'étoiles, c'est blanc d'étoiles. Et là, spontanément, c'est pas possible, on peut pas être seul là-dedans, il y en a forcément d'autres, quoi. La prochaine frontière, c'est clairement se poser sur Mars et vivre sur Mars. Donc, d'un corps céleste à partir duquel on ne voit plus la Terre, on ne peut plus converser avec la Terre et on ne peut plus revenir en cas d'urgence rapidement. Comment s'y préparer? J'ai pas la réponse.
Le voyage vers Mars, c'est 8 mois à l'aller. On imagine que c'est 8 mois au retour. Au bout de 10 jours, l'astronaute, le taïkonaute, le cosmonaute perd ce que vous appelez l'overview effect, ne peut plus voir la Terre. Et puis, il n'entend plus dans son oreillette la voix chaleureuse de Léopold Dayard, parce que Eurocom, c'est fini, on n'a plus de contact avec la Terre. Comment est-ce qu'on envoie un humain, fût-il super entraîné, aussi loin, tout seul?
Alors là, vous abordez les problèmes psychologiques, hein.
Mais
c'est qu'une partie des problèmes auxquels on doit faire face lors de missions martiennes. Alors bien sûr, c'est un contexte totalement nouveau. Hein. Lorsqu'on est sur l'ISS aujourd'hui, on est à 400 km de la Terre, on est pratiquement comme un avion à haute altitude. Donc la Terre est là, elle est autour de vous, vous êtes vraiment encore accroché à la Terre. Dans une mission martienne, ça ne sera plus le cas, effectivement. On est dans un contexte totalement différent. La Terre devient un point quand on voit Mars ou Vénus aujourd'hui dans le ciel, donc c'est un point brillant, quand il est éclairé par le Soleil depuis notre position. Et puis, on n'a plus qu'un ciel étoilé.
Bien sûr qu'il y a Mars, il y a la Lune. Moi, je pense que pour l'instant, on a un travail important à faire dans la station spatiale en orbite terrestre, au niveau scientifique et au niveau compréhension de ce que l'être humain peut faire. Il est important que nous puissions avoir une collectivité terrestre sur la station spatiale, non pas 5 agences spatiales, mais les autres agences spatiales qui veulent se mettre aux vols habités, comme la Chine qui a commencé, et aussi l'Inde, donc être avec cette agence spatiale mondiale. Et ensuite, je pense qu'il est important d'aller sur la première destination faisable, proche de la Terre, qui est la Lune, et non pas mettre un drapeau national sur la Lune, mais un drapeau Terre sur la Lune.
Mais Leopold Hertz, les vols américains vers la Lune, c'était les années 70. Mm-hmm. Et depuis, personne n'a remis le pied dessus, avec tout ce qu'on sait des minéraux, des potentialités de cet astre si proche. Pourquoi ?
Bon, d'abord, je pense que les missions lunaires des années 60 étaient des missions extrêmement risquées. Il y a eu 6 missions, et ces missions étaient d'abord très courtes, et ensuite très risquées. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce programme s'est arrêté. Ensuite, les budgets nécessaires pour ce genre de mission sont colossaux, et on sait aujourd'hui qu'un pays unique, fût-il les États-Unis d'Amérique, n'a plus les ressources budgétaires pour financer des missions à ce niveau de coût.
Il faut qu'on puisse aller sur la Lune à nouveau, mais avec l'ensemble des pays qui participent aux vols habités, pour répéter nos habitations, le support vie, la façon de manger, la façon de boire, la façon de vivre à l'extérieur de la Terre, en dehors de l'atmosphère, et non pas dans une station spatiale. Et ça, c'est très important, parce que ça nous permettra ensuite de faire le choix entre aller sur Mars pour trouver les traces de vie ou pour de la recherche scientifique, ou aller vers un astéroïde pour la protection de la Terre, ou aller vers d'autres destinations qui sont plus importantes. Dans ce siècle dans lequel nous sommes, je pense que nous irons vers la Lune et vers une autre destination en dehors de la Lune, que ce soit Mars ou un astéroïde. Dans le siècle d'après, dans les siècles d'après, on parle même d'aller vers d'autres étoiles, donc sortir du système solaire.
Le tourisme spatial a subi un coup d'arrêt hier. Le vaisseau Spaceship Two, qui était en essai, a explosé en vol et s'est écrasé dans le désert californien de Mojave. On ne sait pas encore pour quelle raison. Les précisions de Charlotte Alix à New York.
Le message martelé par les responsables de la base spatiale et des entreprises impliquées est que dans ce secteur hautement technologique, eh bien les accidents arrivent. George Whitesides, le directeur de Virgin Galactic.
Space is hard. Aller dans l'espace est difficile et aujourd'hui a été une dure journée. Mais à bien des égards, l'avenir se construit sur des journées difficiles comme celle-ci. Nous avons une dette envers ceux qui pilotaient ces vaisseaux et ceux qui avaient tant travaillé, celle de comprendre ce qui s'est passé et aller de l'avant.
Mettre au point un moteur-fusée, la fameuse rocket science comme on l'appelle en américain, eh bien c'est très très difficile. C'est ce qu'il y a de plus dur dans tout ce qu'il y a de spatial. C'est le mise au point de moteurs-fusées. Concevoir un vaisseau étanche, régulé thermiquement, c'est moins difficile que mettre au point des moteurs-fusées d'Ariane 5 ou de la navette spatiale. Mais ça n'empêche pas que Virgin Galactic est quand même plus près qu'il ne l'a jamais été du moment où il y aura des clients à bord. Je pense que dans les 2-3 ans, s'il n'y a pas de nouveau pépin, son Spaceship 2 aura été certifié, qualifié. Et toute personne qui se fait un peu violence intellectuellement et physiquement pour accepter de se mettre au sommet d'un moteur fusée qui va pousser très fort, et ce sera même encore plus viril sur un avion suborbital, parce qu'ils vont atteindre 5-6G en étant secoués pendant une minute et demie, ils seront considérés héros, c'est-à-dire des gens qui arrivent à faire des trucs pour lesquels il faut vraiment oser, quoi.
Leopold Hertz, est-ce que le tourisme spatial pour vous, c'est la fin des héros ?
Alors, il y a eu des touristes spatiaux, d'ailleurs j'en ai connu quelques-uns lorsque j'étais en entraînement à la Cité des Étoiles à Moscou pour ma mission sur l'ISS, mais c'est un tourisme qui était assez peu démocratisé puisqu'on avait affaire à quelques millionnaires ou milliardaires.
Milliardaires.
Milliardaires, oui.
200 millions de dollars le voyage.
On ne peut pas dire que ce soit vraiment du tourisme spatial, en tout cas c'est limité.
Mais qu'est-ce que ça vous a fait, vous, pilote de chasse, surentraîné, qui a patienté pendant des années, qui a un background scientifique, de vous retrouver en face de quelqu'un qui a mis juste 200 millions de dollars pour faire le même voyage que vous?
Non, ça ne m'a pas particulièrement gêné. D'abord parce que c'était des gens assez, je dirais, extraordinaires, des gens qui ont certes réussi, mais qui avaient une très grande motivation, d'une part, parce que la plupart avaient eu une carrière scientifique ou une formation scientifico-technique. Donc il venait se payer en vol spatial, certes, mais avec une très grande motivation. Et puis souvent aussi, ils amenaient leur propre programme d'expérience. Alors leur entraînement était beaucoup plus limité, hein. Il durait 6 mois, donc si vous voulez, ils restaient uniquement dans la partie russe. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans la partie américaine parce qu'ils n'étaient pas entraînés pour ça.
Donc là, il y avait une frontière. Les touristes vont rester du côté des Russes.
Oui, mais bon, ils n'avaient pas le droit de toucher à quoi que ce soit. Alors, ils ont été, bien sûr, dans la partie américaine, mais je veux dire, ils n'avaient pas le droit d'utiliser les systèmes de bord, voire les toilettes ou la cuisine. Ils étaient limités à la partie russe parce qu'ils avaient été formés uniquement sur la partie russe. Hein. C'est plus que, on peut le rappeler, mais c'était des touristes qui volaient par des accords avec la Russie. Donc, ils montaient dans le vaisseau Soyouz russe au moment où il y avait des rotations courtes. Donc, il y avait parfois une place pour les touristes, ce qui n'existe plus aujourd'hui, hein, parce que toutes les places des touristes sont aujourd'hui prises par les, par les Américains, comme on l'a dit. Hein. Les Américains n'ont plus la navette, donc ils ont, si vous voulez, remplacé les touristes. Ceci dit, ça a été, il faut quand même reconnaître que ça a eu un rôle important à l'époque où la Russie avait des difficultés pour le financement de sa part du programme. L'apport des touristes sur le plan financier a permis quand même à la Russie de continuer à assurer dans de bonnes conditions sa part du programme. Donc aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Là, je pense que financièrement, ça va mieux pour la Russie. Mais il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années des difficultés.
Jean-François Clairvoy, juste avant d'entrer dans le bureau, vous venez de me dire que je suis toujours spationaute actif. Racontez-moi, c'est comme pour l'armée, vous êtes mobilisable à tout moment ?
En théorie, oui. À l'Agence spatiale européenne, qui est en Europe la seule agence qui a un corps actif d'astronautes, nous sommes 10, dont 3 Français, Léopold Herz, Thomas Pesquet et moi-même. Donc on passe chaque année la visite d'aptitude au vol spatial, où l'on regarde beaucoup le système cardiovasculaire, les yeux. Je passe chaque année devant plus de 15 machines différentes, rien que pour les yeux. C'est hallucinant. Je ne sais pas ce qu'ils vont chercher. Parfois, j'ai essayé de comprendre, mais c'est regarder des petites bêtes, des trucs incroyables. Tout le système fonctionnel, les organes, il y a des échographies. On a rectoscopie, endoscopie, anale. Alors, buccal, on ne la fait plus maintenant. Mais c'est surtout donc l'ORL, le cardiovasculaire, la vue, les intestins, le système musculo-squelettique, le dentaire. C'est purement médical. Avec le test d'effort, j'ai oublié, il y a un test d'effort qui est tantôt le vélo, tantôt le tapis roulant. Voilà. La probabilité que ça m'arrive de revoler est très très faible. On en est à un rythme presque d'un vol tous les 10 ans pour un Français. À ce jour, 9 Français totalisent 17 missions spatiales, dont 13 ont eu lieu en moins de 10 ans. Entre 1992 et 2002, il y a 13 Français qui partent dans l'espace. Parfois les mêmes, hein. 13 vols de Français dans l'espace. Depuis 2002, il n'y en a eu qu'un, c'est Léopold. Il y a 8 ans. Et le prochain, c'est dans un an. C'est-à-dire qu'il y aura eu 9 ans entre le prochain et le précédent. Et avant Léopold, c'était un gap de 6 ans. Donc on n'est pas dans une période faste, mais moi, j'ai du mal à prétendre être sûr que je serais capable comme ça d'aller sur Mars. Mais vous me donnez un ticket, je pars demain.
Les nouvelles frontières de la conquête spatiale. Avec les spationautes Jean-Loup Chrétien, Claudie et Jean-Pierre Aigneret, Léopold Deyartz, Jean-François Clairvoy et Michel Tonini. Documentation INA, Catherine Louboutin. Recherche musicale, Virginie Gresset. Sur les docks, attachée de production Christine Bernard et Alison Sinard. Mixage Alain Joubert. Réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède.